Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue pour la 28e de Quoique, l'émission qui fait ce qu'elle peut. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 9 septembre 2005, jour de la Saint-Alain.
Bonne fête, Alain.
Bonne fête, voilà. Alain.
Bah, Alain.
À tous les talents.
À tous les talents.
Quel talent ?
Ouais.
Pardon.
Les talents. Quel talent ? Alors.
Le talent divin, c'est bien.
Oui, merci.
De rien.
Alors avec nous aujourd'hui, Flo, qui nous parlera de douche froide. Bonjour Flo,
ça nous
fera
bonjour.
De te déranger pendant ton verre d'eau.
N'est-ce pas, c'est horrible. Hein. C'est parce que c'est la journée sport, alors aujourd'hui je bois de l'eau.
Oui,
aujourd'hui.
Mais t'es enrhumé en plus, t'es crevé, mais t'es enrhumé en plus. T'es enrhumé ?
Non, elle cuve.
Non, je suis pas enrhumé, ça fait depuis mardi que je suis pas à la flotte, là je fais d'accord. Une pause.
D'accord,
ben, pas de tonnerre d'applaudissements pour Flo, on verra ça plus tard. Avec nous aussi Béa qui poussera un coup de gueule contre la nullité des programmes de l'été à la télé.
Ouais, je vais râler.
Voilà, tu vas râler. Ça va nous changer.
C'est ce que j'allais dire.
Donc pareil, pour le tonnerre d'applaudissements, on verra plus tard si tu le mérites. Avec nous aussi Cré qui nous parlera de Monceau. Non,
oui,
de ton saut.
De Monceau, tout à fait. Monceau. Voilà, j'ai eu une expérience très intéressante le week-end dernier, samedi dernier. Quelque chose que je rêvais faire depuis très très longtemps. Et j'ai eu donc, d'aller au parc Monceau. Et donc, j'en rêvais depuis très longtemps, puis toi, dans le lycée.
J'ai acheté ton petit saut rouge avec les.
Et je vais vous faire partager cette aventure.
Une expérience intéressante avec une histoire, un mot qui commence par saut.
Voilà.
D'accord.
Exactement. Vous en saurez plus un peu plus loin.
Ah ouais, bon, on attend avec impatience.
J'imagine.
Avec nous aussi, Ariane, qui, comme moi, n'a pas préparé grand-chose et qui nous parlera des tongs.
Bah, fallait bien qu'on trouve quelque chose d'inutile à raconter.
Ben voilà, mais très bien, mais c'est pas inutile.
Mais n'empêche que pour faire du sport, les tongs, c'est un peu nul.
Bah si, quand tu sors de la douche.
Si, il y a des gens qui font de l'alpinisme en tongs.
Ouais, ah. Puis ils restent en haut de la montagne.
Puis on peut jouer aux boules.
En général, oui, puis on est obligé d'aller chercher
un
hélicoptère.
Il y a que les tongs qui descendent.
Et en buvant du tang. C'était pas préparé.
Ah non, c'est pas préparé, il fait 8 sur 60 ans.
Ah oui, c'est le ting et le tang. Hein.
Voilà. Avec nous aussi...
Il y a que moi, là, qui ai passé ma semaine...
Ben, si t'es en forme hein, quand même hein, finalement.
Ouais, je ressuscite.
Ouais, ben, tant pis. Avec nous aussi donc Numa,
oui.
Qu'on n'avait pas vu depuis longtemps.
Non.
Enfin entendu.
Ah bon?
Bah oui, il me semble. Non, t'étais pas là la dernière fois.
Non, c'est moi qui n'étais pas là.
Non, nous non plus, on a zappé l'émission aussi.
Il en a zappé deux, lui.
J'en ai zappé deux.
Moi aussi.
Non, la dernière fois, je crois qu'il y avait Ariane, ton verre et Valérie. C'est
voilà, et il y a un micro.
Tu l'as écouté?
Vite l'écouter. Tout de suite, c'est promis.
Et donc, Numa qui nous parlera de la semaine buissonnière, qui est un recueil d'articles d'un certain Antoine Blondin.
Blondin qui travaillait. Non.
Non. Il travaillait, oui, pardon.
Il travaillait. Ce qu'il disait lui-même, c'était pour justifier ses notes de frais auprès de son employeur. Et il parlait de verre de contact.
D'accord. Ça, c'était préparé.
Non.
Non, ah, ça s'entend aussi.
Blanc.
Ah bah quand même, merde. Mais avant tout cela, nous allons parler donc de sport avec un certain Miro. Valérie a parlé de lui une fois. Je sais pas
Bonjour. Si
t'as suivi l'émission.
Donc si, j'ai suivi. Ouais. D'ailleurs, je persiste et je signe, sa montre tourne à l'envers.
Donc réécoutez, ça doit être la 26e. Pour,
c'est du mois de juin.
Voilà.
Belle émission d'ailleurs.
Donc voilà, donc il va nous parler de sport, de la passion du sport, et avant ça, on va mettre un petit jingle pour se sentir plus dans l'ambiance.
Ouais, soyons sportifs. Voilà.
Allons-y.
Mmh.
soit sport avec Miro Sport.
Alors voilà, le sport, la passion.
Quand c'est fort, c'est Miro Sport.
Voilà. Donc on va parler de la passion du sport avec un fan de sport. De tous les sports à peu près, hein, je me trompe pas.
Ah oui, je lis tout, ça m'intéresse. Tout ce que je peux voir, je le vois, j'essaye de le voir. Et, bon, il y a des trucs. Il y a des sports que je comprends moins bien. Hein, genre.
Le curling, t'as un peu de mal encore ?
Le curling, oui, mais on apprend. Quand tu passes 4 heures en JO à regarder le curling, enfin, tu comprends.
En revanche, ce qu'il faudrait, c'est quand même, c'est que les auditeurs sachent que Miro est gaulé comme une ablette. Hein, il ressemble pas du tout à une armoire à glace sportive.
Et alors ?
Bah, tous les sportifs sont pas des armoires.
Il y en a des tas, des comme ça.
Ils pratiquent pas.
Et tu préfères quoi dans le sport? Parce que moi j'aime bien la côte de sport ou.
C'était préparé ça?
Non plus.
Ça s'entend. Ouais, hein.
Elle est bonne celle-là.
Donc alors pour poser un peu le personnage, Miro donc lit l'équipe tous les jours. Depuis des années.
Depuis que j'ai 18 ans.
Depuis que je suis parti
de chez mes parents pour que j'ai pris une certaine autonomie dès que je suis parti de chez mes parents.
Qui t'empêche pas d'acheter l'équipe tous les matins.
Avant il fallait faire les devoirs, maintenant je lis l'équipe.
Donc voilà. Même le dimanche.
Dès que ça sort. Bah,
l'équipe ça fait que quelques années que c'est le dimanche.
Ah oui, depuis la Coupe du Monde 98.
Voilà, c'est ça.
De foot.
L'équipe sort le dimanche.
La Coupe du Monde de 98 de foot.
Oui.
Il faut préciser, tout le monde
n'est pas... Pas de curling, effectivement. Mais... L'équipe n'a pas sorti l'édition du dimanche pour le curling.
C'est vrai, ils auraient pu.
Et donc, en plus, il les a tous appris par cœur. D'ailleurs, que si vous voulez jouer au Trivial Poursuite et répondre à toutes les questions, c'est les oranges, hein, c'est ça, Ariane? Faut jouer avec Miro.
C'est camembert orange.
Là, voilà. Vous êtes sûr
c'était préparé, ça, voilà.
D'avoir votre camembert orange?
Oui, c'était préparé. Mais ça s'entend aussi, malheureusement.
Donc,
il prend pas cher, on en profite pour faire de la pub. Hein, donc, joueur de Trivial Pursuit, spécialiste des questions orange.
Et je voulais savoir, c'est pas un journal qui est trop violent parce qu'on parle régulièrement de l'équipe sauvage. Et je voulais savoir si à la lecture.
C'était préparé ça ?
Non plus.
Ça se serait presque entendu.
Donc tu peux pas nous parler d'un truc pendant pendant 5 minutes et préparer un truc pour voir la différence.
C'est quand même sûr que ce qu'on voit à la télé, c'est quand même moins violent qu'on le lit dans l'équipe, c'est vrai. Ah, on voit moins les contacts. Mais c'est un très bon journal. Hein. Je crois que il y a des bons là-dedans. Hein. Des fois, c'est même mieux que la télé. On voit pas même match des fois même.
Justement, apparemment l'équipe que je n'ai jamais lue est très critiquée parce que ils parlent de beaucoup de choses, mais pas forcément du sport. Et ils critiquent beaucoup les joueurs, leur vie personnelle, mais cela ne nous regarde pas. C'est vrai.
Bah c'est vrai que depuis quelques années, même les commentaires de matchs, par exemple de football, qui se passent, c'est vraiment ils parlent beaucoup d'à côté, quoi, pas vraiment le résumé du match. Et c'est vrai que ils parlent beaucoup des coulisses en ce moment. Depuis un an et demi, deux ans, c'est vrai qu'ils parlent beaucoup des coulisses du sport plutôt que du sport en lui-même, du résumé qu'ils devraient faire de ce qu'on a vu.
C'est assez navrant.
Bah ça dépend,
mais c'est aussi parce que les personnalités du sport, finalement, elles ont une vie de plus en plus fracassante, peut-être aussi.
De toute façon, c'est sûr que tu
peux. Il n'y a pas que les footballeurs.
Et quand le match est nul.
Ah, bah le match est à 0-0.
Bravo.
Bonne réponse.
Il était nul. Très nul.
Ou 5 partout.
Voilà, mais ça, c'est pas un match nul.
À moins qu'il y ait. Il peut y avoir 1-1.
Aussi.
Hein,
moi, j'ai vu des matchs nuls 1-0.
Moi, j'ai vu des matchs en vrai aussi qui étaient à chier.
Match nul 1-0.
Il était pas mal. Mais non, je suis désolé.
Et d'ailleurs, en parlant de ça, le match de France, Irlande-France pour la qualification pour la Coupe du Monde, ça fait beaucoup de pour dans une même phrase.
Non, mais c'est pas extrêmement grave. En fait, quand on regarde un match comme ça, on en a rien à foutre que le match soit nul, on a plus les boules, quoi. Parce que bon, on est quand même supporter d'équipe de France et c'est vrai que bon, t'es là devant ta télé, t'es plus stressé qu'autre chose.
Et en tant que...
Si t'es, évidemment, t'as envie que la France aille en Coupe du Monde.
Et c'était un bon match? Parce que moi je suis ça comme ça quand c'est des matchs importants.
Non, il y avait de l'engagement, c'est ce que j'aime bien dans le sport. Parce que moi je pense que le sport il faut quand même aller au bout de soi-même quand on en fait, quoi. C'est-à-dire que bon, je respecte tout à fait les gens qui vont courir, qui vont s'amuser ou même qui prennent une licence de foot pour jouer le dimanche avec leurs copains. Mais moi le sport je le conçois quand même pour aller au bout de soi-même, quoi. Et c'est que tu donnes tout ce que t'as et puis tu sors et t'as le droit d'aller te vautrer pour regarder Stade 2 après. Ouais, en attendant que ta femme te serve ton petit sandwich. Voilà.
Ah voilà,
Du sport le dimanche, tu dois être dans ton canapé crevé. Après, tu peux faire du sport comme t'en as envie. Hein. Ça, c'est pas la même chose.
Ouais, donc tu disais tout à l'heure que Miro était un spécialiste des questions oranges, mais il est aussi un spécialiste des questions vertes quelque part.
Ah
oui, mais
bravo.
Ça c'est.
Mais oui, non, oui,
parce
oui,
qu'on n'avait pas fini de brosser le portrait, parce que Béa nous a coupé.
T'as fait la même chose.
J'en profite parce qu'elle a pas de micro. Là, donc... Ce c'est aussi, et oui, on en a trouvé un fan de Saint-Étienne. Oh. Donc il est d'origine bretonne, il habite à Paris, mmh. Il a fait ses études à Poitiers, et c'est un fan de Saint-Étienne. Mais pourquoi ?
Eh oui, on se demande. C'est où est la vraie raison ? C'est qu'en fait, quand j'ai commencé le foot, c'est-à-dire en 1976-17, il y avait deux clubs en France, enfin,
en D1,
qui étaient bons. Hein. Il y avait Nantes et Saint-Etienne. Bon, bah, tu fais un pile ou face. Quand j'ai regardé les spectateurs dans Téléfoot, il y avait Saint-Etienne. J'ai trouvé que le chaudron était quand même vachement très intéressant. Enfin, c'était vraiment ça que j'aimais bien dans le sport, quoi. Tout plein de gens derrière leur club et vraiment une volonté d'aller devant, quoi. Bon, c'était vraiment facile, hein, à cette époque-là. Il y avait que Saint-Etienne et Nantes. Hein. C'était pas non plus.
Les poteaux carrés.
Oui, mais ça, c'est de la provocation. Nous en parlerons plus tard. Et donc, j'ai choisi Saint-Etienne. Mais du coup, j'ai appris leur histoire et tout. Et j'ai jamais changé. Et depuis, je vis avec.
J'ai au fan carte, club. Voilà. Machin,
il t'a même pas mis ton t-shirt vert
tous les ans. Ouais. Et...
On lui offre des maillots de Saint-Etienne pour ses anniversaires parce qu'on le connaît.
Il est toujours vert.
Et c'est ça.
Ah non, des fois, il est noir, mais... Et plus tard dans la soirée.
Ah.
Mais j'ai aussi le maillot noir de Saint-Etienne de l'année dernière qui est très joli, qui est même plus beau. Il est même plus joli que le maillot vert. Mais pas avant quand tu vas au stade.
Bah, hein, remarque, quand tu vois la couleur du maillot vert, attends, c'est pas dur hein, de faire un maillot plus joli en noir. Merci.
Merci quoi, ouais, ils font des choses magnifiques. Saint-Etienne a des maillots noirs.
Tu sais qu'ils font des efforts, Florence. Ouais. Hein.
Pour avoir un vert aussi laid.
Ah, bah tu sais que maintenant on a du vert, un maillot vert avec marqué un petit peu les sponsors en blanc. Avant, on avait un maillot vert qui était moche.
Avec des sponsors en vert ?
Ah non, non, un gros casino rouge.
Ouais, mais il n'y a plus Manu là, France marqué dessus et quand même, c'est dommage. Mais
je l'ai, il est joli. Puis un vrai en plus que j'ai, hein. Pas celui de la réplique qui est sorti là, pour les 50 ans du club.
De Saint-Étienne.
50 ans, 80 ans même, on va dire maintenant.
Et donc, ils en sont où, là, cette année ?
9e, de première division, tranquille, meilleure défense du championnat. Pas la meilleure attaque, faut bien dire.
Envers et contre tous. Mais non, parce qu'il serait meilleure attaque, meilleure défense, il serait plus haut.
Et puis, surtout, invaincu depuis, oh là là, depuis longtemps, puisque Saint-Etienne est en train de battre le record d'invincibilité à domicile, il faut quand même bien le savoir.
Et bien, bravo.
Le gardien de but n'a pas pris de but depuis plus de 15 matchs. Geoffroy Guichard.
Et il y a des joueurs connus ?
À Saint-Etienne ?
Oui.
Oui, le public.
Ah.
Il rentre pas souvent, mais il est très fort. Donc c'est fini le temps où on a eu des joueurs bien connus.
On a un petit peu parlé de la presse en parlant principalement de l'équipe, qui est quand même a priori le journal le plus important au niveau du sport et généraliste. Il y a d'autres journaux généralistes sur le sport par l'équipe.
Bah, il marche pas très bien. À chaque fois qu'il y a eu un petit, il y a eu un journal qui est sorti un jour le sport, mais ça a tenu un an à tout casser. Mmh. Parce que bon, l'équipe c'est quand même c'est presque un million de lecteurs par jour.
C'est un des principaux quotidiens français. Tout.
C'est hallucinant.
Tout confondu.
Parce que moi j'aime bien Midi Olympique, mais en foot ils sont nuls. Et en curling aussi.
Ouais, mais tandis que l'équipe s'en sort un petit peu au rugby.
Un petit peu.
Même s'ils sont moins bien que le
Midi Olympique.
C'est les spécialistes.
Et alors le sport à la télé ?
Eh ben quand ça dépend. Moi le sport à la télé, c'est quand même des fois un petit peu c'est bizarre quoi, parce que bon, quand j'entends des fois on peut citer les chaînes ou pas?
Oui.
Béa, tu nous as servi des bières périmées.
Ça fait 20 minutes qu'on parle de l'équipe, on peut citer les chaînes, hein, c'est bon.
L'équipe est quand même relativement meilleure que France 2. Je regrette par exemple à France 2 le stade 2 qu'il y avait avec Robert Chapat, Thierry Roland et tout, que maintenant ils nous pondent un truc où ils arrêtent pas de parler, on voit plus l'image, presque plus le résultat, c'est une catastrophe.
T'as l'impression que les journalistes se font plaisir en fait.
Oui, ils se regardent à la télé quoi.
Ouais, c'est vrai qu'on a une interview d'un sportif qui dure 5 minutes, bah, c'est très bien. Aussi.
Ah oui, il faut aussi, mais bon, il y a des chaînes pour ça quoi.
Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'interviewer les sportifs si c'est toujours les mêmes questions et toujours les mêmes réponses ?
À mon avis, ils en ont marre. Hein.
Mais bon, est-ce qu'on interroge
ils ont qu'à dire à l'équipe.
Est-ce qu'on interroge des sportifs au bon moment en fait?
Non, et puis quand tu demandes à un
mec, c'est vrai que c'est sûr que
juste
quand
après la défense, c'est intéressant.
Genre, il a pas encore repris son souffle, qu'on lui met le micro.
Surtout quand il a perdu, oui, c'est le meilleur moment. Quand Mehdi Bala par exemple se fait éliminer du 1500 en demi-finale à Helsinki au championnat du monde d'athlétisme, oui, c'est sûr que le mec il est là, il est favori, il se fait interviewer, il a même pas fini.
Ou par Nelson Montfort.
Ah oui, c'est vrai qu'il est bien.
Du genre vous avez aussi, perdu, vous êtes déçu.
Voilà, lui aussi on a du mal à imaginer.
C'était pourtant une belle course.
Du sport, Nelson Montfort.
Ah mais il a dû en faire, hein. Du cricket peut-être.
Ouais. C'est je crois qu'il a été champion de danse de valse.
Sur patinage artistique, pas sur patinage glace.
And he's very good to speak English. Hein.
Non, non, mais bon, on regrette Pierre Fouleur, que tout le monde a connu d'ailleurs par les guignols. Enfin, a mieux connu par les guignols. Mais... Moi, je
me souviens de
que les résultats, on savait, on avait les images, mais surtout les résultats, on savait ce que tout le monde avait fait. Maintenant, bon, bah, ils sont 40 autour de la table, ils parlent d'un truc dont ils s'en foutent. Hein. Parce qu'en plus, il n'y a plus un qui est spécialisé dans un sport. C'est maintenant, toi, tu vas suivre le VTT, tu auras le temps de suivre ça.
L'aviron.
Donc voilà, tu vas tout parler de ça.
L'aviron à 8h du mat aux Jeux Olympiques.
Il ne connaît rien.
Pierre Fula, lui, c'était l'haltérophilie, non ? Je sais plus quoi.
Au départ, oui, parce qu'il était champion de France d'haltérophilie.
Oui, puis après, moi, je me souviens de Roger Couder, quand j'étais petit, moi.
C'était tennis,
mais c'était extraordinaire.
Le rugby, là.
Couder, c'était le rugby, et quand je regardais les matchs, ben, ça me faisait aimer le rugby.
Ben voilà, c'est ça. Ouais.
Et pourtant,
bon, encore, on n'a pas eu vraiment de malchance après, parce qu'il y a eu. Enfin, Albaladejo a continué, mais c'était bien. Mais quand on entend Salviac, des fois, bon, c'est difficile.
C'est
d'ailleurs,
c'est
tu faisais une réflexion au niveau du foot avec Roulant et Jean-Michel Larquet, les autres commentateurs sportifs, où tu me disais que Jean-Paul Roulant et Jean-Michel Larquet, on les critiquait beaucoup.
Pas
mais
tout à fait Jean-Paul
Roulant.
Thierry Roulant, ouais.
Ah oui, on les critiquait parce que c'est vrai qu'ils sont chauvins, quoi. Enfin, Thierry Roland surtout, quoi. C'est vrai que lui, s'il n'y avait que l'équipe de France qui participait à la Coupe du Monde, c'est sûr qu'on l'aurait gagné plus de fois. mais c'est vrai que quand tu regardes un match, moi des fois je fais autre chose en même temps parce que le match ne m'intéresse pas spécialement. Et bah, quand Thierry Roland commente un match, bah, tu lèves la tête parce que tu sais qu'il va y avoir une action ou un but ou un truc comme ça. Et les matchs en France 2 ou d'autres chaînes, et bah, il peut y avoir 7-2, et bah, tu auras continué à faire ton petit truc en même temps et tu n'auras même pas vu le match. Parce qu'ils te font pas vibrer, tandis que Thierry Roland, c'est vrai qu'ils me faisaient vibrer.
J'ai vu aussi l'inverse. Hein. Enfin, l'inverse, entre parenthèses, parce que moi j'ai vu des commentateurs sportifs. Un commentateur sportif qui a été directeur des sports sur France 2. Franchement, le mec, genre le gardien passait la balle au défenseur, il commençait déjà à s'exciter, à s'enflammer. Oh là là, il va y avoir but !
Ah oui, mais
là, ils sont à l'autre bout du terrain.
Ça, hein, si Thierry Roland,
Pierre Slade, il était imbuvable.
Il avait 15, hein.
Imbuvable.
Mais normalement, il y a une cage à chaque bout.
Et Eugène Saccomano à la radio.
Il y avait un but.
Ah,
c'est pas fabuleux, ça.
Mais il a commenté les matchs
sur M6.
Il a commenté les matchs sur M6. Et bon,
M6 a passé des matchs de foot.
Oui, mais ils en passent maintenant.
Ils ont misé sur le foot.
Ce qui serait dommage, en étant propriétaire d'une équipe de foot, de ne pas pouvoir en passer quand même. Sur toutes les leurs.
Laquelle ?
Bah là, normalement, ils sont propriétaires de Bordeaux et ils passent les matchs de Marseille. Ils ont eu les droits de Marseille en Coupe de l'UEFA parce qu'ils sentent le bon plan. Bon, bah Marseille va se faire sortir au prochain tour, mais bon, ça c'est.
Mais Marseille est dans les choux là, non ?
Ah bah oui, bah là, contre, je sais plus, Anvers, je crois, une équipe belge.
Bah là, ça me fait marrer parce que depuis tout à l'heure, on parle de sport et à chaque fois, on revient au foot.
Parce que c'est le sport.
Alors excellence. Voilà, et surtout à la télé. À la télé, s'ils parlent de sport,
même
on n'en revient
même
que
dans
au
les
foot.
Journaux,
si
tu
regardes l'équipe, donc ce n'est plus du sport.
Moi, j'ai vu l'équipe c'est d'hier, il y avait 95 pages et foot et 2-3 pages voilà. Curling, quoi.
Tout à l'heure, tu parlais de l'engagement.
95 pages dans l'équipe, je serai à la bourre.
Tout à l'heure, tu parlais de l'engagement du sportif, machin et tout, et c'est là où je ne suis plus tout à fait d'accord. On met encore le sportif comme exemple, Zidane, le roi des Français. Faut pas déconner, quand même. C'est qu'une histoire de fric. C'est fatigant.
Il y avait du fric dans le foot, mais il n'y en a pas dans les autres sports, hein, quand même. Les mecs qui se dépouillent au vélo, il y en a qui gagnent que dalle. Quand tu vois une équipe du Tour de France cyclisme, je sais pas, tu prends une équipe qui gagne pas une étape, qui a rien, il termine le truc avec 7000 euros, alors que l'autre pingouin qui est en jaune depuis 7 ans, qui est dopé, qui est mort, en plus, qui est mort, faut quand même le dire. Il est décédé, et il sort à chaque fois avec des millions de dollars. Il est décédé, il monte avec ses couilles. Les t'as bien fait.
Puis il joue même pas de la trompette.
Moi je fais du stretching en plein milieu. Les autres terminent à 40 minutes. Et lui il est peinard. Personne ne lui dit oh, non, quelle surprise. Quelle surprise, dis donc. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens pour qui le sport c'est quand même relativement dur. Même pour les meetings, tu regardes en athlé, il y a des gens qui sont pas invités aux meetings. Donc ils sont payés par la Fédération française que dalle.
Mais ils travaillent souvent à côté.
Ah bah, oui, ils travaillent parce qu'ils sont pas invités au meeting. Ils courent pas. Il faut qu'ils travaillent pour qu'ils courent. Déjà. Et c'est vrai qu'il y a des stars qui prennent tout le pognon. Hein. Quand tu vois qu'un Carl Lewis gagnait 50 000 euros, par exemple, je parle en euros, mais avant c'était 50 000 euros pour juste venir bouger son cul. Bon,
mais justement,
c'était beau d'ailleurs. Hein,
c'est pas dangereux.
Le plus grand athlète du monde.
Justement, c'est pas dangereux cette professionnalisation de tous les sports parce que bon, c'est le foot le premier. Le rugby y arrive. Pour l'instant, on trouve ça encore sympa. Ça va changer très vite. Et effectivement, bah, il y a des stars et puis il y en a qui galèrent. C'est quand même beaucoup dû au professionnalisme.
Ah oui, t'as raison. C'est pour la télé, de toute façon, qu'ils font ça.
Hein. Ouais, pas, en plus,
ils ont du pognon de la télé, c'est les pubs et tout. Autrement, le rugby serait pas professionnalisé s'il n'y avait pas eu la télé qui leur demandait, s'il n'y avait pas eu la Coupe du Monde.
Ben, on a bien vu.
Oui, mais d'un autre côté, il va pas y avoir que les chaînes de télé qui vont gagner de l'argent sur leur dos. Après, il faut bien le redistribuer aux joueurs. C'est eux les principaux acteurs.
C'est le système quoi qui va pas. Si on professionnalise, ça devient complètement pourri.
Bah, c'est jeune, ça fait pas si longtemps que ça existe. Ça va peut-être se mettre en place. Ils essayent de faire en sorte que ça soit de moins en moins pourri. Alors bon, il y a toujours de plus en plus d'argent, mais bon.
Et puis en plus, cette pourriture, quand même, a entraîné beaucoup plus de dopage. Alors ils sont bien gentils,
mais ils se doperaient,
même si tu veux,
ils veulent gagner les mecs aussi quand même. Dans un premier temps, ils cherchent
avec
à gagner.
Je suis d'accord avec toi, ils se doperaient de la même façon, ouais. Mais ils n'auraient pas forcément les mêmes moyens financiers d'arriver à un
ça, c'est possible. Il n'y aurait pas les mêmes recherches.
Oui, mais les fédérations n'auraient pas les mêmes moyens financiers non plus pour les détecter, donc ils seraient au même niveau, mais un niveau plus bas. Finalement. Tout à fait.
Oui, mais si tu veux, ce qui est inquiétant aussi.
Non, mais quand tu vois, par exemple, on parlait du vélo là que tout à l'heure, bon, bah, il y a eu le dopage, l'affaire Festina. Bon, la moyenne du Tour de France, elle a baissé. Non, elle est en train de remonter. Quoi. Maintenant, ils ont des trucs.
Les vélos sont plus légers.
Oui, c'est peut-être ça. Ouais.
Non, non, mais je ne sais pas ce qui est inquiétant aussi avec
les
cette histoire
aussi,
de fric. Je ne sais pas si vous avez
entendu. Ça allège.
Les Miro, ça doit lui dire quelque chose, ça. Les trafics de joueurs aussi, parce qu'il y a tout avec leur histoire de fric et de fric et de fric, il y a toute une histoire de trafic assez joyeuse.
Les faux passeports pour qu'ils viennent jouer à Saint-Etienne,
Ça, c'est indépendant de notre volonté. Après, t'as des dirigeants, c'est vrai que c'est un petit peu, t'as envie de les tuer, quoi. Parce
mais ils ont déjà fait des progrès dans le foot, même s'il y a plus d'argent à l'époque où c'était des associations, 1901, où c'était une magouille, et justement, c'était avec Bess, tout ça.
Non, mais il y a eu surtout
Ils ont fait du ménage en faisant des entreprises. Ça peut être
énormément.
C'est plus facile à contrôler. Une association loi 1901, qu'est-ce que tu veux contrôler ces trucs-là? C'est impossible.
En tant que supporter de Saint-Etienne, la première affaire de sous, c'est quand même c'est Saint-Etienne, quoi. C'est triste à dire, mais bon, je vais le dire quand même, c'est ça, quoi. C'est 81, enfin Rocher, là, qui, avec la caisse noire, c'est le premier truc qui est vraiment. Yves Rocher, oui. Ça, c'était, il y avait une caisse pleine de parfums. Il payait Platini pour le faire venir avec du parfum, c'était sympa, mais bon. Non, mais c'est vrai que c'était déçu parce que c'est ton club, mais enfin c'est le club que t'as envie de supporter, mais bon, après il y a eu des trucs plus graves. Hein. Maintenant, avant quand Platini était payé, c'était pas non plus, il a dû gagner, je sais pas, comme Bernard Hinault le disait aussi, il gagne même pas ce que se fait Armstrong en deux mois quand il a gagné tous ses tours et tout. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Les mecs, on leur demande.
C'est peut-être mieux distribué parce que peut-être que leurs directeurs sportifs, les patrons des équipes, eux gagnaient quand même déjà beaucoup d'argent à l'époque, mais un peu comme peut-être dans la chanson à une époque où ils gardaient tout pour eux et puis ils disaient tiens vas-y, tu vas avoir la gloire et nous on va avoir le pognon.
C'est peut-être distribué différemment, mais je crois que surtout qu'à la base, le sport génère beaucoup plus d'argent aujourd'hui qu'il en générait à l'époque.
Ah bah oui, parce qu'il n'y avait pas la télé. La télé, avant, c'était quand même les fédérations qui payaient la télé pour qu'ils retransmettent le match. Quoi.
La télé, l'argent, il vient de la publicité.
Les gens, le sport.
Je pense que le poids de la publicité est beaucoup plus fort aujourd'hui.
Ah oui, oui, de toute façon, maintenant, ils ont plein, je sais pas, c'est hallucinant.
Si les gens ont pas trop.
C'est combien? Je sais plus combien c'est. Maintenant, j'ai du mal en
France. Ceci dit, c'est pas vrai pour tous les sports.
C'est hallucinant, quoi.
Ça cible quelques sports.
Imagine combien il fallait payer pour faire la pub, pour mettre ta pub à la télé pendant la mi-temps de France-Brésil en 98. C'était hallucinant. Ils ont augmenté de 100 000 euros, je crois, ou je sais plus combien, le prix de la pub pour France-Côte d'Ivoire, rien que parce qu'il y avait Zidane.
Non, France-Côte d'Ivoire, ils n'ont pas eu le temps. C'était Ilfero et France. Ouais,
en même temps, ils ont payé l'Ilfero.
Quoi et...
En même temps, ils ont pu payer les joueurs d'Ilfero et d'être venus. C'est sympa.
À partir du Danemark, je ne sais pas pourquoi ils ont
eu. C'est où l'Ilfero?
Dans ton cul.
C'est quelque part vers le Danemark.
C'était pas préparé.
Il fallait qu'on la fasse, celle-là, une fois. C'est Miro qui l'a fait.
Il y en a plusieurs en plus, je crois.
Non, non, les îles Féroé, c'est une seule île habitée. Oui, mais il y en a qu'une habitée. Non, mais il y en a qu'une seule habitée.
Je sais plus, ça, de toute façon, ça appartient. Je sais plus si ça appartient c'est, à l'Islande ou au Danemark.
Non, c'est danois en fait. Mais c'est,
danois,
c'est, a, c'est Danemark, comme le Groenland, c'est
habitants.
Parti au Danemark.
Il y a 11
en fait.
Habitants sur l'île Féroé, ils jouent tous au foot.
Non, mais c'est vrai qu'en fait, c'est vachement. C'est, si tu veux, c'est une équipe qui est un minimum sympathique parce que mine de rien, ils disaient là tous leurs joueurs. Ils
et
ont
puis ils
tous
sont aussi forts que
le
Brésil.
Ils
ont pris 3-0 contre la France. C'est déjà pas mal.
Non, mais ils se sont peut-être pris une raclée, mais enfin bon, les mecs, si tu veux, le reste de la semaine, ils conduisent leur camion.
Ah, bah ils ont des camions déjà.
Mais c'est une
pas
blague,
mal,
ils n'existent pas. C'est un peu comme l'équipe de bobsleigh de la Jamaïque là.
Bah ça a existé ça. Non.
Ah si 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 il y en a une. C'est
un film.
C'est vrai c'est vrai.
Oui oui non, non, c'est vrai. L'histoire le film.
C'est un peu. D'ailleurs ils vont faire un film aussi parce que Monaco avec le prince Albert aussi et l'équipe de bobsleigh vont faire un film d'ailleurs. Je sais pas comment ça va s'appeler. Mais par contre, il y a un truc, ouais, tiens, en parlant du Groenland, c'est rigolo parce que ça me revient. Il n'y a pas d'équipe de foot de Groenland.
Mais parce que ça appartient au Danemark aussi, mais c'est vrai qu'il
y a une équipe de handball de Groenland. Ouais. Ils ont fait les championnats du monde de handball. Bon, ils ont pris une pile. Hein. C'était 40 buts à chaque fois, mais ils ont fait les championnats du monde de handball. Ça,
oui, et puis la Grande-Bretagne, il y a quand même 3-4 équipes de rugby, 3-4 équipes de foot. Pourquoi?
Heureusement que pour le rugby c'est sympa parce que autrement le tournoi des deux nations, oui, oui, trois nations, ça aurait pas été terrible.
Ça va être chiant.
France-Angleterre. Angleterre-France.
Mais non, c'est marrant parce que c'est pareil, la Grande-Bretagne en athlée, ils sont réunis tandis que par exemple dans d'autres sports, pas du tout. Quoi. D'ailleurs, c'était rigolo. D'ailleurs, mercredi, j'étais très content que la France ait gagné en Irlande, même si j'adore l'Irlande. Hein, j'adore
ils sont verts.
Aussi, ils sont verts, puis j'aime bien leur esprit, j'aime bien. Par contre, j'étais hyper heureux quand j'ai entendu que l'Irlande du Nord avait battu l'Angleterre.
Mais tu dois être content aussi quand le Celtic de Glasgow gagne.
C'était pas
aussi
arrivé depuis 1927.
Et quand le Celtic de Glasgow gagne, Miro, tu dois être super content quand même, parce qu'ils sont verts aussi.
Oui, mais enfin bon, ça dépend contre qui ils gagnent, quoi.
Ah, mais ça, après, ils gagnent. Mais Romain, de l'autre côté, ils gagnent pas très souvent.
Mais c'est pareil,
plus,
en Écosse, on peut pas dire. En Écosse, on va dire, ouais, ils ont du mal à rivaliser sur le.
Sur le Glasgow Rangers, mais ils ont pas les sous.
Enfin, en
le Celtic, y a pas de sous.
C'est vrai que les Écossais, en Europe, ils font les matchs de poule, et puis basta, quoi, au revoir. Il y a que deux clubs là-bas, donc forcément.
Quoique
cette année, là, c'est rigolo. Cette année, c'est la première fois qu'ils sont pas premiers. C'est assez surprenant. D'habitude, en général, on sait que ça va se jouer entre eux au bout de deux journées. Là, au bout de 6, ils sont pas premiers, ça change un peu. Mais non, c'est. Voilà, le sport c'est bien, mais il y a tout, c'est l'émotion aussi, c'est énorme, quoi. C'est,
en avion.
Même à la télé, des fois, c'est vrai que c'est mieux retranscrit parce qu'on a plus le temps sur un 100 mètres, ou c'est-à-dire 10 secondes à la télé. C'est retranscrit sur deux pages dans l'équipe ou des trucs comme ça, on a le temps de lire, la préparation et tout. Et c'est vrai que l'émotion de le voir, moi je me souviens d'une course, c'était en 91, où Carl Lewis, il a quand même 31 ans, quoi. Et on le voit tous battu. Et moi je suis un fan de Carl Lewis, hein, je l'avoue. Au bout de 60 mètres, il est à la rue, tout d'un coup il revient, il bat le record du monde, quoi. Moi je suis désolé, là-dessus, c'est peut-être la course justement où on pourrait se poser plus de questions, parce qu'ils sont quand même 6 à descendre en dessous des 10 secondes. Et en 2003, le champion du monde, il fait 10-06 ou 10-08, un truc comme ça. Donc, t'as les boules. Mais elle était tellement belle, cette course. Moi, comme en plus Carl gagne, j'avais les larmes aux yeux. Et c'était énorme.
Tu peux nous rappeler son palmarès déjà? Il y a combien? 8
Carl Lewis, ça... oh là, c'est même plus. Ça même pas sur moi. Enfin, remarque.
Toi, t'es pas très gros, forcément.
Non, c'est 8 titres de champion olympique, un truc comme ça.
Oui, il en a 8.
Ouais,
hein,
7 ou 8. Bah, il y a déjà 4 au 100 longueurs. Ouais.
Et sur 4 Olympiades consécutives.
Oui, ce qui est très rare. Enfin, sauf aussi. T'es rameur ou tu peux ramer, ou sur les bateaux. Les bateaux, tu peux aller jusqu'à 50 ans. Il y a ce doigt qui doit avoir 5 ou 6 médailles.
Il y a un mec d'avion là, anglais, Radrave.
Ouais, avec. Ouais, il y a ça.
Pareil, mais, 4 Olympiades successives.
Non, mais en 84, ils en ont.
On connaît moins.
Il y en a 4,
oui.
32.
Bizarrement.
Ah, puis il en aurait pu en avoir plus hein, s'ils étaient professionnels, ces Américains. Et non pas dopés. Quand tu vois comment ils merdent aux 4 fois 100 à chaque fois au relais parce qu'ils travaillent pas ensemble parce qu'ils prennent les 4 meilleurs donc le bâton c'est soit ça passe soit ça tombe donc Carl il aurait pu en avoir vachement plus.
Donc, et puis, on va faire une petite conclusion ou une grosse.
Ah non, mais il n'y a pas de problème. Il faut regarder le sport.
Après cette discussion un peu décousue mais passionnante,
s'il existe des sports dont on ne parle quasiment jamais.
Oui.
À part le curling.
Oui, le football américain français, on n'en parle pas souvent. Hein. Pourtant, baseball, à Paris, il y a quand même toutes les grandes équipes, Saint-Ouen, La Courneuve, il y a Aix aussi, il faut quand même le dire. Et il y a un truc aussi,
Il y a un truc qui est pas mal, qu'on n'en parle pas souvent, on a juste les résultats, où c'est Rouen qui est champion de France souvent.
Le hockey ?
Non. C'est un sport, c'est le baseball, je crois. Ouais, le baseball, ça existe aussi en France. Hein, c'est,
Mais du cricket aussi.
Non, il n'y a pas de cricket dans
l'équipe. Non, il y a des. Ouais, oui, peut-être. Mais y a des... J'ai un ami qui a travaillé avec un anglais, j'ai un ami londonien qui a traversé la Manche pour venir jouer au cricket à Bordeaux.
Le stade français. De toute façon, le sport, le stade français, c'est né avec les Anglais. Hein. C'est... D'ailleurs, le nom de stade, de tous les stades qu'il y a partout, c'est le stade français qui l'a. C'est pour ça que maintenant, partout dans le monde, un stade, ça s'appelle un stade. Stadium en Angleterre, stadium. Enfin, partout.
Et bah, c'était une magnifique conclusion.
Voilà.
N'est-ce pas?
Il faut y aller au stade.
Donc voilà, les stades.
Oui, monsieur.
C'est français, même le stade français. Merci, Miro. Et vive le sport sur Quoique. Donc maintenant, nous allons passer aux chroniquettes et nous allons commencer par Flo, avec qui nous allons prendre une deuxième douche froide.
Oui, une chroniquette en plus qui est dans le thème. Parce que douche froide, contrairement à ce que le titre raconte, eh ben, ça parle de judo. Enfin, le judo, c'est une espèce de fil conducteur. Douche froide, c'est un premier film, si je ne m'abuse, d'Anthony Cordier. Et qui nous qu'est-ce que je sens que Numa se fout de ma gueule.
Non, on prend le frais.
Ah d'accord. Douche froide, c'est
pas le frais, hein, le frais.
Ouais, mais j'ai le temps.
Douche froide, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est très 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 doué en judo et en fait qui vit dans une famille où il y a pas beaucoup de sous, et puis le judo, de toute façon, ça rapporte pas beaucoup de sous non plus. Et pour réussir à joindre les bouts au niveau de l'électricité, il faut couper le compteur. Il coupe le compteur d'eau et il n'y a plus d'eau chaude, donc d'où les douches froides. Et donc c'est l'histoire de ce jeune homme qui découvre la vie petit à petit, qui passe de l'adolescence à la vie, enfin qui essaie de passer à la phase faculté. Avec ses amis et le judo, etc., etc., qui essaient de tout mêler ensemble. Et ça se passe pas nécessairement bien, quoi, comme quand on est adolescent et que c'est pas facile.
Je me laisse pas distraire.
Ah oui, non, je me laisse pas distraire. Je suis vachement. J'ai l'impression que je me sens très seule là sur
mais
ma chroniquette.
Mais non, on t'écoute.
Ouais, vous rigolez, vous êtes tous en train de regarder Miro et ses bières. Merci.
Oui, mais on est capable d'écouter.
Ne te laisse pas.
Bon, enfin bref, quoi. Donc voilà, c'est l'histoire de ce jeune homme qui suit son parcours d'adolescent, enfin son initiation vers la vie, à côté d'un garçon qui lui a beaucoup de sous, d'une petite amie qui a des idées un petit peu, enfin qui a des idées très larges et qui décide de mener une vie, un couple à trois. Et enfin bref, voilà, tout sur un fond de judo fait réfléchir pas mal sur la vie, sur ce qui peut se passer dans une tête de jeune, etc., etc. Enfin, c'est un film vraiment très sympa à voir. En plus, il n'y a pas de chichi, pas de fioriture.
C'est un film de quelle nationalité?
C'est un Français.
Il s'appelle comment?
Ça s'appelle Douche froide, ouais, et oui, ça se passe pas loin de Poitiers. Quoi?
De qui?
Ah, de Anthony Cordier.
Donc, ouais, tu l'avais dit en plus.
Oui, je l'ai dit. Je l'ai dit, c'est un premier film. Hein. Ouais.
Pourquoi douche froide?
Je l'ai dit en plus, mais c'est pas possible. Ouais. Je t'ai dit que ce pauvre garçon vit dans une famille qui n'a pas bézef de sous. Et pour réussir à joindre les deux bouts au niveau d'EDF, la mère coupe régulièrement le compteur.
Et tu n'as pas l'impression que la douche froide, ça lui arrive aussi à lui par rapport à la situation?
Je pense qu'il doit y avoir autre chose.
Il y a pas plusieurs sens. La douche froide, il y a une deuxième douche froide, si tu veux, c'est que sa petite amie
a dévoilé trop loin dans l'histoire.
Parce qu'il se passe des trucs.
Il rencontre donc un jeune homme qui lui est plein de sous, dont le père devient le sponsor de l'équipe de judo. Et en fait, ils vont entamer une relation à trois avec la petite amie de notre héros. Non, mais c'est une histoire à trois quand même. Enfin, trois personnes.
À côté de Poitiers.
Ouais, à côté de Poitiers.
Je comprends rien.
C'est dur. Voilà, oui. Et là, c'est vraiment la douche froide aussi, quoi. Enfin, c'est toute la complexité des relations humaines.
Et c'est vachement bien interprété, quoi. C'est plein de jeunes qui sont pas complètement totalement inconnus. Remarque, je vois qu'il y a Salomé Stevenin, dont le nom me dit fortement quelque chose.
C'est,
oui,
c'est
voilà.
La famille Stevenin, c'est la fille, on connaît bien.
Voilà.
De Jean-Pierre, de JPP.
Après, pout. Enfin, dans les jeunes, remarque, non, les tout jeunes, bon, on les connaît pas si bien que ça. Mais enfin, bon, c'est vraiment.
Si, vas-y, dis quand même.
Je l'ai dit. Alors, il y a Johan Libéraux qui doit faire le héros, donc Salomé Stevenin qui fait la petite amie, et ça doit être Jean-Philippe Écoffé qui fait le copain,
oui, si on connaît, ouais, aussi ce nom là
voilà, ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore, bon, mais sinon il y a Dominique Cabrera qui est une réalisatrice, enfin bref, il y a du
Pierre,
il y a Claire Nebout, il y a du beau monde dedans.
Ah bah oui, quand même.
Oui, mais c'est pas un truc dont on a parlé.
Et ça passe toujours.
Je sais pas, c'est sorti, je crois, au mois de juillet, je crois.
Il me semble. Oui.
Ouais, il me semble que c'est
donc,
sorti par là.
Bientôt dans vos vidéoclubs.
C'est UGC qu'on peut pas voir. Qui l'a poussé comme découverte. UGC, ouais. Le truc qui m'énerve un peu, ça m'énerve toujours un peu quand UGC essaie de présenter les films d'arrêt essai en se les accaparant, mais bon.
Tu nous en parleras une prochaine fois, tu as déjà abordé le sujet une première fois.
Mais bon, ça fait de la promotion. Je sais pas s'il a plus marché. Nous, on l'a pas vu. On l'a vu dans une petite salle d'arrêt essai à la fin, de toute façon.
Donc, eh bien, écoute, on essaiera de le trouver et on peut faire un tonnerre d'applaudissements cette fois. Et bien maintenant, nous allons passer, après ce moment de poésie, à un coup de gueule.
Ouais.
De Béa.
Chier.
Bah ouais, je voulais profiter des 3-5 minutes qui me sont généreusement accordées. Donc pour râler. Donc je sais que pour ceux qui me connaissent, c'est pas très original, puisque je suis une grande râleuse. Mais cette fois-ci, je vais pas râler à propos de la circulation à moto dans Paris, mon sujet de râlage favori, pour ceux qui me connaissent toujours. Mais je vais râler sur la télé, et ça tombe bien, puisque je suis censée faire une chronique télé. Je voulais donc pousser un coup de gueule contre les rediffusions abusives et systématiques de la télé durant les 2 mois de vacances estivales. Parce que bon, il est loin le temps où j'étais étudiante, où j'avais 4 mois de vacances pour faire des fêtes, des barbecues, les bains de minuit, etc., etc. Donc loin de la télé. Parce que maintenant, je n'ai que 3 semaines, je sais que ça va en faire râler certains, que 3 semaines d'évasion, donc il en reste 5 à passer comme une période normale dans les 2 mois d'été, hein. C'est-à-dire une période où après une longue journée de travail, je reviens harassé, je m'écroule dans mon canapé pour regarder la télé tranquille, peinard, quoi. Et bah, cette année, peut-être plus encore que les années précédentes, parce qu'il me semble que j'avais déjà râlé à ce sujet-là dans une des émissions.
C'était cyclique, franchement, hein, c'est tous les étés.
Oui, mais là, pire que cette année, c'était franchement la misère. On n'avait franchement rien à se mettre sous la dent. Et surtout au niveau des films, parce que j'ai déjà parlé des rediffusions, des jeux, des machins, un truc. Et là, franchement, les films, c'est pas possible. Donc là, ça me gonfle. Moi, la énième diffusion de Angélique Marquise des Anges.
Non, ils ont fait ça cet été.
Oui, la totale. Alors, messieurs les programmateurs, est-ce que vous n'avez pas trouvé...
Oui, mais ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas passé.
Non, l'année dernière, il est passé à Noël dernier,
d'habitude,
c'est pas possible.
12 mois.
Tous ensemble.
6.
Bah, peut-être, mais enfin, je sais pas, ils peuvent pas trouver encore plus vieux là. Il y a pas des conneries plus récentes. C'est quand même assez navrant. Alors j'en ai relevé quelques-uns. J'ai relu Mes Téléstars, hein, c'est ma bible que j'ai conservée. Oui, de cet été. Non mais non, je les jette à chaque émission, je te rassure. Quand même. Donc on a eu pour la énième fois Le Grand Blond. Alors même si on aime bien, et la suite, on a eu toute la série des Dents de la Mer. Alors même si le premier est regardable,
c'est normal, c'est un programme d'été, les Dents de la Mer.
Mais pourquoi il y a des programmes
et pourquoi
d'été,
c'est normal que
pourquoi
chaque année tu bouffes le même menu.
Son cerveau en veille l'été. Ah, parce que sinon il y avait les sous-doués, les bidasses.
Oui. Ils ont passé que le deuxième. Non, ils ont passé les deux sous-doués aussi. Ouais.
Les deux sous-doués. Les deux.
Moi j'ai regardé que le deuxième parce qu'il y avait plus de vacances.
Non, mais à mon avis, c'est toute une histoire
de sous.
Les trois
dans de la mer.
Hein.
T'as ils moins ont passé de. Les trois.
Et tout ça sous le soleil.
Tu dois avoir moins de parts de marché, t'as moins de gens qui regardent, t'as donc moins de parts de marché, tu prends les vieux films.
Tout le monde n'a pas des enfants et ne se sent pas.
Ils prennent des films d'arrêt d'essai, il n'y aura pas plus de gens qui les regarderont et ça leur coûtera encore moins cher.
Oui, mais ça s'appelle Arte après.
Non. Il pourrait nous passer, même si c'est des films légers, il pourrait nous en passer surtout des plus récents. Parce que ça,
il y a combien de films par an?
Oui, mais le problème de tes films récents, c'est ça, ça va être les droits en fait. Et comme c'est de plus en plus marcelé, c'est de plus en plus cher.
Qui les finance, donc c'est agaçant.
Mais les autres, ils les ont payés, il faut les amortir.
Ah oui, c'est non, mais non.
Ah ben c'est amorti, c'est leur pas plus rond.
Le Père Noël est une ordure en plein mois de juillet, ça irait pas.
Mais ils l'ont fait, pourtant. Je crois que c'était en juin.
Celui qui l'a fait s'est fait virer.
Ouais, maintenant, il passe tous les deux mois, le Père Noël est une ordure. Mais c'est devenu difficile d'allumer sa télé sans voir le Père Noël est une ordure
sur
une chaîne.
Même si ce sont quelquefois de bons films, même si quelquefois on les aime bien, on n'est pas obligé de se taper tous les Michel Lang et les Max Pécasse
sur TMC. Sur TMC, pour ceux qui ont la TNT ou autre chaîne câblée, ils ont passé tous les Max Pécasse cet été.
Il y a eu une soirée spéciale Max Pécasse sur Paris Première aussi.
En plus, comme ça tu pouvais les voir deux fois.
Et justement, en parlant du câble, ne prenez pas le câble, ça sert à rien. Même les chaînes de cinéma, à part Canal+, ça vaut même pas le coup, c'est toujours les mêmes. Et eux c'est pire, ils se refilent les films tous les deux mois. Faut pas déconner quand même.
Tu prends deux télé 7 jours d'affilée, t'as le film sur Paris Première et des fois après sur Antenne 9.
Oui, voilà, il se passe des films.
Des fois que t'aurais raté le film qui est passé 27 fois dans l'année, tu peux encore le revoir sur une autre chaîne, c'est quand même bien, c'est quand même bien fait.
27 hein. Fois.
Non, moi ça me gonfle et je paye une redevance. Maintenant c'est obligatoire, 54. Donc je voudrais bien qu'ils me mettent des films qui sortent un petit peu.
Non, ça a toujours été obligatoire. Si t'as pas de télé, tu peux cocher la case dans tes impôts en disant non, je n'ai pas la télé.
Mais c'est surtout que maintenant que j'ai le câble, je peux pas échapper. Je suis dans les listes. Et donc je voudrais payer une redevance. Je veux pas forcément avoir que des grands films, mais pas les mêmes tous les ans, quoi, s'il vous plaît.
Ce que tu fais, c'est que tu divises par 12 et puis il y a 2 douzièmes que tu payes pas. Et tu dis, je les ai déjà payés l'année dernière. Ces deux douzièmes là, c'est exactement les mêmes.
C'est une idée, on la retient.
Ok, on va rester sur cette excellente idée que je n'ai pas entendue parce que je faisais des grands gestes pour en dire stop. Donc il y a un tonnerre d'applaudissements. Maintenant, Cray qui va nous parler de Monceau, de son saut.
De Monceau, oui. Pas de Monceau, de Monceau, c'était le grand saut. C'était samedi dernier. Samedi dernier, je me suis levé à 5h30. Ça m'arrive jamais de me lever à 5h30. Donc, vraiment, je me lève à 5h30, il fallait vraiment qu'il y ait vraiment une bonne raison.
Pourtant, t'avais bien bu le vendredi soir.
Je vais y venir. Alors, douche, petit déj, je prépare mon sac, tout paf. 6h30, je suis parti, je prends le métro, une heure de métro, parce que j'habite à Montreuil, j'allais à Boulogne, donc c'est à l'autre bout de la ligne 9, j'avais tout Paris à traverser, à peu près une heure. Donc j'arrive de l'autre côté à 7h30, paf, on monte dans la voiture, parce que j'étais avec des collègues pour y aller justement ce jour-là, et hop, on part, une heure et demie plus loin, on arrive sur le tarmac. Voilà.
Donc dans un aéroport.
Exactement. Entre 9h et midi à peu près, je reçois une petite formation. À midi et quart, l'avion décolle. À midi 30 exactement, à 4075 mètres d'altitude.
Tu fais dans ton froc ?
Non ! Mais par contre, j'ai pas le temps, parce que j'ai même pas le temps de faire dans mon froc que je me jette dans le vide.
Mais t'as fait un saut seul ou un saut double ?
Tu vas me laisser raconter un petit peu mon histoire. Donc je me jette dans le vide. Et 6 minutes plus tard, mes pieds touchent à nouveau terre. Et je ne suis pas mort, je suis là pour vous raconter tout ça. Et sur le moment, j'étais même pas du tout mort, j'étais carrément euphorique. C'était une expérience exceptionnelle et vraiment formidable, quoi. En fait, j'en rêvais depuis très 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 longtemps et je l'ai fait et je suis trop content. J'ai sauté en parachute et avec en plus une grande partie en chute libre. Donc,
et un élastique.
Non, sans élastique. Sans élastique. Je me suis jeté dans le vide et vraiment c'était exceptionnel, c'était génial. Donc je vais essayer de vous raconter ça. Alors tout commence une semaine un peu plus tôt quand je reçois un mail de mon comité d'entreprise qui me propose cette activité-là. Donc avec en plus un tarif très 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 intéressant. Je savais que c'était... ils me l'ont proposé en fait à 55 euros seulement.
Waouh, c'est pas cher.
Non, super pas cher. Donc 55€, alors qu'en fait, pour donner une idée, si on paye tout, c'est 260. Enfin, ouais, si c'est moi qui avais tout payé, c'était 260. Ouais. Donc, bon, bah voilà quoi. Donc, je saute sur l'occasion, je réponds que ça m'intéresse. Aussitôt, je vais chez le médecin passer une petite visite médicale parce que pour sauter en parachute, il faut un certificat de non-contre-indication. Voilà, donc j'ai toutes les pièces et tout, et hop, j'y vais. Donc, comme je vous ai raconté, oui, il faut un parachute aussi. Et donc, ce jour-là, donc avec mes collègues, on est parti. On y allait, c'était à 1h30 de Paris, donc près d'Amiens, dans la Somme. Il faisait un temps magnifique, un bleu total, pas un seul nuage, juste un petit peu de vent, et d'après les moniteurs, il paraît que justement, c'est exactement le temps idéal pour voler, on était trop contents.
55€, hein, fallait avoir un temps idéal, comme tu payes pas cher, il aurait pu pleuvoir.
Voilà, donc à l'arrivée, vous arrivez là-bas, il y a tout un tas de formalités à remplir, et puis aussitôt, hop, après, on va dans le hangar de briefing et de formation. Et là, vous arrivez, en fait, vous passez la matinée, ils vont vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Et surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est que vous voyez les pros, les mecs qui ont l'habitude, les mecs qui atterrissent et ils sont là avec, ils arrivent en fait avec leur parachute et tout, ils arrivent, mais comme des tarés, ils arrivent. On croit qu'en parachute, on arrive tout doucement, et en fait, ces mecs-là, ils arrivent à toute vitesse et au dernier moment, ils freinent, ils se posent comme des fleurs. C'est impressionnant, et j'ai entendu vous dire que quand vous savez que vous allez faire exactement la même chose, ça vous fait quand même un petit peu bizarre. Mais non, je vais faire ça, moi. Bon, voilà. Donc, on a toute une formation qui vous explique comment ça va se passer et tout. Donc, en fait, moi, je sautais avec un moniteur. Donc, j'avais un moniteur dans le dos. On était sanglés entre tous les deux, et c'est lui qui déclenchait le parachute et c'est lui qui réglait le parachute pendant le vol. Donc ils m'ont tout expliqué comment ça allait se passer, les positions et tout ça. Et hop, à midi, on monte dans l'avion, et hop, ça décolle. Et on monte dans l'avion. Et en fait, pendant tout le décollage, et puis la plus grande partie du trajet en avion, la porte arrière reste ouverte, donc en fait, on voit petit à petit...
Tu pendouilles dans le vide même, si t'es le premier, non ?
Non, moi j'étais pas le premier, parce qu'en fait, il y avait tous les pros, ceux qui avaient l'habitude, qui étaient devant nous, qui allaient sauter les premiers, qui étaient devant nous. Et nous, donc, on voit petit à petit, on voit le cul de l'avion qui est ouvert, et donc tu vois le sol qui s'éloigne. Puis d'un moment, le pilote, il ferme le cul de l'avion, donc on voit plus, donc ça veut dire qu'on est très 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 haut, on commence à être à 3000 mètres. À 4000 mètres, l'avion stabilise sa position, il rouvre la porte arrière, tout le monde se lève, et là tu vois les mecs aussitôt, ils déboulent les uns après les autres, boum 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 boum, ils disparaissent tous les uns après les autres devant toi, donc t'as même pas le temps de réfléchir que déjà, tiens, c'est mon tour, et hop, le moniteur qui est derrière toi, il te pousse, et puis hop, t'es dans le vide. C'est extraordinaire, c'est une sensation que tu peux pas raconter comment ça se passe un saut en parachute, parce que c'est des sensations que tu n'as jamais vécues avant. On peut pas raconter les sensations qu'on a en parachute. C'est quelque chose qu'on n'a pas vécu avant. On perd toutes ces références. Quand on est dans le vide, on est comme ça, on est à 200 km/h, on fonce. On n'entend rien. On a les oreilles qui font un peu mal parce qu'il y a une pressurisation énorme. Mais on a un flot de sensations extraordinaires et que j'ai qu'une envie, c'est de revivre. Mais que par contre, on peut pas décrire parce que ça ne correspond à rien de ce qu'on connaît jusqu'à.
Ça ressemble même pas au saut à l'élastique.
Ah non, je sais pas, j'ai pas fait de saut à l'élastique. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les sensations que j'ai eues à ce moment-là, je les avais jamais rencontrées avant. Et puis tout d'un coup, on sent qu'on commence à freiner brusquement. Ça fait pas de haut-le-cœur du tout, mais par contre, on sent que la voile se gonfle parce qu'en fait, le mec au-dessus, juste derrière nous, il a tiré sur la manette, donc le parachute est en train de se gonfler. Et tout d'un coup, on bascule, on n'est plus à l'horizontale, on se retrouve automatiquement à la verticale. Et puis là, on s'aperçoit, parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir quand on est en chute libre. On réfléchit pas, on a que des sensations.
Et on a la pression de vitesse quand même.
Énormément. Et en fait, dès qu'on le parachute est ouvert, hop, là, on commence à réfléchir. Et là, on s'aperçoit, il y a rien en fait en dessous de moi. J'ai les pieds là, hop, il me faut coucou. Mais
t'as le temps de regarder le paysage, quoi.
Oui, tu profites du paysage, mais c'est court parce qu'il te reste 5 minutes pour descendre seulement. Et en 5 minutes, tu vas descendre petit à petit. Et en fait, au début, t'as l'impression que ça va pas très vite, puis plus tu te rapproches du sol, plus tu aperçois qu'en fait, que même en parachute, tu descends à 14 km/h, c'est très 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 rapide. Et en 5 minutes, enfin, la chute libre, elle dure de 4000 à 1200 mètres. Et après les 1200 derniers mètres, tu les descends sous la voile, comme ils disent. Et t'arrives après au niveau du sol à 14 km/h. Sauf au dernier moment où il freine et il te pose comme une fleur. Moi, il m'a posé comme une fleur. Et je peux vous dire, quand je suis arrivé en bas, j'étais un peu brouillé du ventre. Mais par contre, j'avais qu'une envie, c'était de recommencer.
Ouais. Eh ben, écoute, on ira, on viendra avec toi.
Ah, c'est clair.
Franchement, c'était extraordinaire. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de recommencer, peut-être même de faire un stage pour passer les brevets et tout ça.
Moi, je sais pas.
Voilà.
Voilà. En fait, merci beaucoup. Un tonnerre d'applaudissements. Et bien après une redécouverte du sketch de Bigard sur le saut en parachute, pour ceux qui connaissent, si si, il parle du gros mec derrière, la ceinture qui se coince dans une couille, si je puis me permettre.
Ah, il t'a fait mal.
Nous allons passer à des choses plus terre à terre, puisqu'il s'agit des tongs avec Ariane. Oui, t'allumeras ta cigarette après.
Plus tard.
Vas-y, c'est à toi.
C'est à moi. Alors, on va faire beaucoup plus léger. Effectivement, on va parler de tongs. Ça sert pas, je sais pas si ça sert à grand chose, si à part se protéger les pieds quand même un peu du sol.
Puis si, la tong était très en vogue, elle est revenue en force.
Oui, alors, il y a, voilà, le côté mode. Mais alors, moi, il y a une chose que je me suis demandé, c'est pourquoi est-ce qu'on appelle une tong? Je me suis longtemps posé la question. Enfin, non, pas très longtemps finalement, parce que c'est pas très, très intéressant. Est-ce que c'est à cause du bruit que ça fait quand ça remonte?
Ça fait schlap.
Contre le tral. Mais voilà, je me suis demandé, parce que ça ouais, fait pas tong, ça
tu
fait schlap.
Tu pourrais pas dire, ah, j'ai mis mes schlap.
Voilà.
Oh, sauf, super
on non, il y en a quand ils marchent quand même, tu te dis, mais il ferait mieux de marcher pieds nus parce que ça fait schlippa, 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 ça fait
plutôt, dans les campings,
plutôt
on
comme
fait
ça.
Un concert.
Il y a pas que dans les campings, hein. Tu sais, en ville, justement, tu parlais de mode. Maintenant
c'est
que
nouveau,
les tongs sont revenus à la mode, aussi, ça fait quand même déjà 2-3 ans.
Oui.
Il y a une grande folie.
C'est pas très, très vieux.
Tout le monde porte des tongs, y compris les hommes. Et effectivement, la plupart dans la rue traînent des pieds. Donc ça fait schlippa, schlippa, schlippa. Enfin, un truc dans ce genre-là. Et c'est épouvantable. Alors que dans les îles, on appelle les tongs. Moi, je trouve qu'il y a un nom qui est très joli et qui dit vraiment ce que ça dit. On appelle ça une savate de doigts. C'est bien plus amusant. Et au moins, ça dit ce que ça veut dire. Voilà. Le problème de la tong, c'est que c'est vraiment une chaussure qui est faite que pour l'été. Parce que t'as déjà essayé de mettre une tong avec une paire de chaussettes?
Bah c'est comme quand tu fais du vélo, c'est de bonne
qualité. Il y a des chaussettes. Si
ça, t'as les tongs japonaises.
Oui, à part les japonais, mais eux ils font pas le même bruit, ils font ni tong ni schlippa, ils font toc 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 parce qu'en plus ils ont des.
Ils en voient qui font mal quand justement. Tu
mais si, il y a des trucs là où t'as pas la séparation entre les orteils.
Bah,
ou c'est juste
pas une tong.
Oui.
C'est des claquettes, ouais. Ça c'est de la claquette.
Bon, je sais pas, j'en mets jamais.
La tong, t'as un truc entre les orteils.
Comme disait Fred Astaire.
Moi j'enlève jamais mes chaussettes de toute façon.
Juste entre les orteils, voilà.
Mais les Anglais maîtrisent très bien la tong avec la chaussette.
La tong avec la chaussette,
les Allemands aussi.
Les Allemands aussi. Non, Numa, ça c'est pas une tong, ça c'est une Birkenstock et c'est justement pour pouvoir mettre des chaussettes à l'intérieur. Mmh. T'as rien.
Ouais, mais on n'est pas obligé.
Non, on n'est pas obligé, mais il y a rien. La tong, c'est un morceau de mousse ou de caoutchouc, pas très épais, avec juste une bride, et il y a un morceau qui te passe entre le gros orteil et le doigt de pied d'après.
Ça c'est la définition de la tong.
C'est une sorte de string, mais pour les
Est-ce
pieds.
Est-ce que
quoi.
Tu mets justement le fameux string de pied avec les tongs? Est-ce que tu les mets, ces trucs?
Non, t'es pas obligé de mettre le string et la tong. Enfin,
ah
tu,
bah si
tu peux
sexy.
Porter les deux.
Ah
bah si, les chaussettes à doigts de pied séparés, là, ça tu peux mettre avec des tongs.
Ouais.
Enfin bon, la tong c'est quand même une chaussure d'été, donc a priori il n'y a pas de raison de mettre des chaussettes avec.
Bah ça dépend où tu vas en vacances.
Et effectivement, on parlait de sport, tiens, tout à l'heure. Moi, ça me fait penser que...
Au ting-tong.
Non, qu'on retrouve...
C'était pas préparé non plus.
Non. Que la tong peut aussi être une chaussure de sport, puisque manifestement, il y a des gens qui montent sur les glaciers en tong. En général, après, ils ont du mal à redescendre.
Et la tong reste collée et le pied glisse.
Non,
c'est
il
comme
ça
qu'il marche sur les tongs de quelqu'un. Ça peut être dangereux.
Ça fait super mal à l'intérieur du doigt de pied. Ah, enfin, oui. Entre les deux doigts de pied. Mais c'est vrai que ça laisse des marques, hein. Moi-même, justement, je pratique la tong l'été.
Ça se passe bien.
Ça se passe pas mal, sauf qu'à la fin de l'été, c'est dommage qu'on soit pas, qu'il y ait pas le visuel avec, parce que t'as vraiment les deux premiers doigts de pied très très écartés quand même, hein.
Ah, c'est moi, je suis une novice de la tong, je ne supportais pas avant.
Alors, moi, pendant des années, comme beaucoup d'adolescents, c'était épouvantable, on essayait de me faire porter des nu-pieds. Je préférais mettre des chaussettes et des chaussures bien couvertes quand il faisait très chaud. Maintenant, si je pouvais vivre en tong toute l'année, je le ferais, parce que c'est quand même vraiment très très agréable.
Ouais, mais c'est vrai que la tong sous la pluie, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme faire du vélo,
ça glisse. Ça glisse. Après, ça dépend. Ben, ça dépend. Ça dépend si elle est en plastique. Ça dépend si elle est en cuir. Ça dépend si voilà.
Enfin,
ça remonte.
Il y a des tongs en cuir. Il y a des tongs de luxe. Il y a des voilà. Moi, j'ai des
tongs très très chers.
Mais
ça parce que c'est
j'en ai aussi. Avec juste le truc qui passe entre les
pieds.
Des panneaux entiers de
tongs.
Oui. À 45, 65 euros.
Ah oui, non, c'est devenu une véritable folie. Et puis bon, par contre, là, j'ai pas eu beaucoup le temps de préparer ni de me pencher dessus, donc je sais pas d'où ça vient ni de quand ça vient. Par contre, je pense, c'est vrai.
Miro, tu parles dans le micro ou tu parles pas ?
Faut pas pencher dessus, ça pue.
Oui, non, mais ça va, c'est aéré.
Ça vient des îles Tonga.
Si les Égyptiens portaient pas déjà quelque chose qui ressemblait vaguement à nos tongs d'aujourd'hui, mais en papyrus. Enfin, eux, ils étaient pas bien gênés par la pluie, ils devaient pas, ça devait craquer, peut-être, quand ils marchaient, ça devait peut-être pas faire schlika, schlika.
Mais enfin, ça, dans le sable, c'est pas commun non plus, la tongue.
Non, c'est pas, non, mais il y a aucune chaussure qui n'est pratique.
Oui, mais ça évite de te brûler le pied quand même, ça protège quand même un minimum, c'est ça l'intérêt.
Une question de turlupine, t'es sûr que c'est, les mecs, ils vont sur les glaciers en tongue, ils vont pas chez le glacier pour prendre des glaces en
tongue.
T'as mal lu.
Ah mais j'ai rien lu du tout. Non non, je te promets, j'avais une amie qui travaillait à Chamonix. On en récupère guerre. Tous les étés sur le glacier.
Non, ils vont chez le glacier en tongs, ils reviennent en hélicoptère.
Donc alors les tongs c'est bien.
Voilà. Donc les tongs, bah on
les
est tongs
pour, c'est bien,
on
mettez-en. Est contre,
c'est bien, c'est bien.
Il faut pas de mycose.
Bah ça permet de les mettre à l'air. Comme ça,
les
ça
mycoses.
Sèche.
Ouais. Okay. Ouais, mais ça les écrase.
Ça moi, ça
faut pas en avoir entre le premier et le deuxième doigt de pied. Voilà.
D'accord. Bah, sur cette conclusion,
mycose, c'est pas une
glace. Un tonnerre d'applaudissements. Donc après toute cette poésie, Numa, ça sera pas la peine de faire ton poème.
Hein. Quel
je
dommage.
Pense que tu vas juste traiter
son poème.
C'est mycose.
Donc
et ton sujet.
Donc après les glaces mycoses. Voilà. Merci.
Non mais t'as répété, c'est pour ça.
Non, je l'ai entendu. Je l'ai piqué. Donc je peux y aller là ou
à toi,
il faut
ouais.
que je fasse ma chronique avant.
Ah bah tu fais comme tu veux. Hein. Si plus tu feras court, plus on sera dans les temps.
Bon, mais j'espère qu'on va pas se noyer. Alors, j'imagine que tout le monde connaît ici Monsieur Antoine Blondin, qui était, il est mort d'ailleurs. Vous connaissez sans doute l'écrivain, journaliste et chroniqueur, notamment l'équipe, à l'équipe, qui est né à Paris le 11 avril 1922 et qui est décédé le 7 juin 1991 à Paris.
Manque d'originalité.
Ben non. Pas trop. Donc pendant l'occupation, donc là c'est une bref, un truc hyper rapide sur sa vie parce qu'on va pas faire trop chiant. Donc pendant l'occupation, Antoine Blondin, comme beaucoup d'autres, il séjourne en Allemagne, tout frais payé. C'est ce qu'on appelle le STO, donc c'est le travail obligatoire. Et en effet, donc l'auteur d'Un singe en hiver, qui a un petit peu fait donc le film porté à l'écran par Henri Verneuil avec Jean-Paul Belmondo et Jean Gabin en 1962. Donc comme il était un petit peu feignant, c'était son éditeur. Donc est-ce que c'est une légende? On ne sait pas. Pour obtenir ses manuscrits à la date prévue, il l'enfermait à double tour.
C'est vrai.
Mais c'est ce qui se dit. Donc il publie. Ouais, non mais merci. Il publie son premier roman, donc L'Europe buissonnière en 1949, et l'on peut citer aisément sa bibliographie romanesque, car elle ne comporte que 4 titres en plus de celui que je viens de dire. Parce que visiblement, c'était un gros feignant quand même. Il a écrit on peut pas tout faire. Les enfants du bon Dieu, L'humeur vagabonde, Un singe en hiver. Donc ça fait 2 fois, mais bon, comme c'est un bon film. Et quand même le livre a reçu le prix Interallié aussi quand même, et pour finir Monsieur Jadis. Voilà, donc Antoine Blondin, à ne pas confondre forcément avec le Blondin du film. Est-ce que l'on peut appeler un buveur de fond? Bon, le bon, la butre, la brute et le truand, pour ceux qui n'ont pas compris. J'ai sauté ma ligne, excusez-moi. Je fais pas que lire justement. C'est ce qu'on peut appeler un buveur de fond. C'était joli comme formule. Donc un amoureux de l'amitié. Donc notamment parce qu'il dit: je ne supporte pas d'entendre le bruit d'une porte ou d'un cœur qui se ferme. C'est beau ça. Et un piéton piétonnant, un peu pressé de la rive gauche. Donc j'envisage la rive droite de loin. Je ne traverse jamais le boulevard Saint-Germain sauf pour aller à Tokyo. Et en plus, il n'est jamais allé à Tokyo. Et encore, donc, mon univers se borne à 200 mètres carrés de bitume, une plantation de bar-tabac.
Bar-tabac, c'est bien ça.
C'est pas mal non plus. Il se raconte à son sujet qu'il rédigeait ses romans en un mois, donc sans rature, un jet continu. Donc pourquoi écrire un mot que l'on doit retrancher après? Voilà, évidemment. Donc, mais par contre, pour le Tour de France, il a la tête qui tourne.
Oh, c'est bien dit ça.
Et oui, puisque cet ancien prof de philo avoue avoir pratiqué la course à pied derrière l'autobus et l'alpinisme comme vacher dans les Alpes autrichiennes. Je m'en doutais un peu. Hein. Donc, ce grand sportif du col de bouteille, le col tue lentement. C'est lui. Hein.
C'est là que je cite. Préparé.
Ben oui, c'est lui. C'est lui. Moi, je cite. Hein. Ben, je suis pas obligé de dire que c'est lui, mais c'est quand même plus poli.
Quoi,
il allait en tongs en plus.
Voilà, donc il consacra 700 articles donc au sport jusqu'en 1982 où après il a arrêté. Et donc le livre, ça s'appelle La semaine buissonnière, et donc ça nous présente 90 chroniques dont 71 inédites à ce jour en livre. Voilà, donc on a retenu de lui un bon nombre de ses calembours, mais ce serait quand même oublier son engagement pour la cause sportive, son humour lorsqu'il évoque le Veldiv, lieu où soufflent les sprints, les tournois d'escrime où les jeunes filles viennent se faire compter fleurer. Et encore ses analyses lorsque, à propos du champion, personnage à double détente dont le destin est de mourir deux fois. C'est beau ça. Le sport étant sans doute la seule discipline humaine où la fleur de l'âge se fane sur pied, où les testaments se font à 30 ans. Et donc aussi qu'il est toujours grandiose et significatif d'atteindre au jour prescrit l'objectif qu'on s'était fixé. Champion olympique avec préméditation, ça ira bien chercher dans les 10 ans de frisson ferme. Et n'oublions pas non plus le fait qu'il s'inquiète de voir le sportif apparaître de plus en plus comme un produit de l'éprouvette. Il fallait quand même le dire, il avait noté. Donc voilà, donc ça s'appelle La semaine buissonnière, donc c'est d'Antoine Blondin, c'est publié à la table ronde, ça fait 404 pages et ça coûte 22,11 €.
Je vais l'acheter.
Voilà.
Non,
pourquoi?
Bah, comment tu sais qu'il a écrit ça?
Bah, attends, je me renseigne, je feuillette et j'ai lu plein d'extraits, mais pas en entier. Donc avant de conclure, je rappelle que les romans d'Antoine Blondin sont publiés en livre de poche.
Oui. On lit beaucoup.
Et oui.
Je comprenais pas, j'ai eu du mal. J'ai un peu de temps là, je commence à être un peu lent. Donc, il était là avec un grand sourire et son livre de poche. Puis il me regardait. Bon, il me regardait en rigolant, le con.
Il y en a plein pour toi.
Donc en livre de poche à lire dans tous les bars, évidemment. Donc en guise de conclusion, n'oublie pas qu'on écrit avec un dictionnaire et une corbeille à papier. Tout le reste n'est que litre et rature.
Voilà. Bravo. Et livre de poche, rappelons-le, qu'on peut lire en camping à la lumière d'une lampe de poche.
Voilà.
Et en tongs.
Voilà. Et en tongs.
Ou d'une lampe torche.
Voilà. En prenant des douches froides. Et voilà, un tonnerre d'applaudissements. Alors, vous aurez reconnu, il s'agit du jingle qui annonce le début ou la fin de quelque chose dans cette émission. Et là, c'est la fin des chroniquettes. Oh. Et bientôt, la fin de l'émission.
Oh.
Très, très, très rapidement. Donc voilà, bah, j'espère que vous avez passé une aussi bonne émission que nous.
Et mon poème.
Hein, ton poème, bah, la prochaine fois, c'est
si,
les autres.
Non, bah, ça va, le poème, il est long comme ça. Il fait deux lignes.
Il fait deux lignes. Faisable, et bah, là, ça sera juste avant pour la conclusion de l'émission. Donc voilà, bah, la prochaine émission, le mois prochain. Hein,
ouais. Vous allez
emballé, mais alors d'une force.
Ouais.
On va en parler après. On veut bien voir ce qu'on va trouver.
Oui, bon,
qui va passionner nos auditeurs à nouveau et encore.
On parlera
toujours,
peut-être du sport, mais non. Moi, un tout petit peu alors.
Un petit peu.
Oui, il me reste
un
dernier truc à dire sur le sport.
On pourrait peut-être parler de la flemme
sport,
en fait.
Ça devrait suffire.
Donc vas-y, dis, c'est pas long.
Bah, c'est juste que j'aimerais bien que l'équipe que lit chaque quotidiennement notre ami Miro, il change de format, parce que j'en ai vraiment marre de ces immenses pages qui sont impossibles à tourner.
Format de poche.
Voilà. Non, mais qui soit au même format que Libération, par exemple. Ouais, ce serait vraiment plus pratique. Hein. Voilà. Donc c'est un appel désespéré pour.
C'est vrai
les,
que de demander
les,
aux gens de
les imprimer
la station d'après parce que tu peux pas les plier parce que t'as fini la page. C'est
surtout quand tu prends le métro, quoi. Faut penser aux gens qui prennent le métro. Le format de l'équipe, c'est vraiment pas
prendre.
Qui
prennent le métro.
D'accord.
Voilà. Le métro.
Donc, comme d'habitude, on va remercier Monsieur Yann Beaujouan qui a écrit, interprété, enregistré les jingles.
Nous le remercions.
Voilà.
Merci Yann.
Merci. Et ben, au mois prochain, et nous allons finir par un magnifique poème de Numa. À toi.
Laissons le sport aux sportifs. Contentons-nous du bar des sports.
Bravo.